Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Bourdel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et avec Culture Média au menu. Vous le savez, tous les médias, toutes les formes de culture. La preuve, nos indispensables du jour, le documentaire sur Claude Lelouch avec Olivier Benkemoun et de la New Wave, mais pas en musique, mais en gastronomie, de la New Wave, de la cuisine anglaise. J'y arrive avec Laurent Mariotte. Et nous aussi, on a un gâteau officiel. Les quatre ingrédients seront là. Bruno Donnet pour ses télescopages, Lisa Marie Marquez et son portrait, Marc-Antoine Lebré et ses voix, et Louise Bernard pour le journal des médias et les audiences. Notre info média autour de Paris Match qui lance une nouvelle offre d'abonnement numérique de l'hebdo, alors que la version papier se porte plutôt bien. Elle reste le premier hebdomadaire d'actualité de France. Nous serons avec Caroline Mangès, c'est la directrice de la rédaction de Match, et Olivier Landresse, le patron du numérique du groupe. Nos invités ensuite, boum, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est le commentateur Laurent Rigal et son consultant, l'ancien pilote de MotoGP Randy Pugnet, parce qu'il n'y a pas que la F1 qui cartonne sur Canal+, il y a aussi la moto. C'est le Grand Prix de France ce week-end, et si vous n'êtes pas abonné, la course sera également diffusé sur C8 en clair. Pourquoi, comment, on vous dira tout. Enfin, Axel Bauer, chanteur et guitariste, Cargo de nuit, c'est lui. Il revient pour un nouvel album, ici Londres, et vous allez apprendre des choses assez extraordinaires sur lui. Le candidat de The Voice qui a osé reprendre Tata Yo-Yo, Danny Cordy, c'était son fils. Et le résistant qui disait ici Londres, les Français parlent au français au micro de la BBC en 44, c'était son père. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Louise, au sommaire de votre journal des médias.
Ça y est, on connaît la date du retour de Marie-Sophie Lacaro au journal de 13h de TF1. Et puis deux actualités séries, une bonne et une mauvaise. Ensuite, vous n'entendrez plus la voix de PPDA sur France Télévisions. On parlera également du prix record de la publicité pendant la diffusion de la série HPI. Et puis je vous fais découvrir une nouvelle émission présentée par une personnalité épatante. On terminera en parlant quand même de l'Eurovision. Je vous raconterai comment la compétition va pouvoir être diffusée en Ukraine malgré la guerre.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, j'imagine, je prends aucun risque, HPI est dans le podium.
Oh oui, HPI est loin devant, retour incroyable, 8 540 000 téléspectateurs en moyenne sur les deux premiers épisodes. Le premier est d'ailleurs à plus de 9 millions et 42,8% de part d'audience. C'est incroyable. Et surtout, regardons la cible publicitaire,
les FRDA,
les fameuses FRDA, 50,7% pour le deuxième épisode. C'est-à-dire qu'une femme responsable des achats sur deux était devant HPI hier soir. C'est énorme. Hein. Ça, c'est sur le deuxième épisode. C'est un record d'ailleurs. Ça n'avait pas fait autant lors de la première saison. Alors forcément, c'est compliqué pour les autres chaînes. Hein. M6 est deuxième avec le film Deadpool. 1 270 000 téléspectateurs seulement. 6,2% de part d'audience.
Oui, c'est presque un score de chaîne de la TNT.
Exactement. Et Envoyé spécial aussi souffre et fait sa moins bonne audience de la saison avec 1 250 000 téléspectateurs. Seulement 6,1% de part d'audience. France 3 est même en dessous du million, hein, 907 000 téléspectateurs, 4,8% de part d'audience.
Europe 1 Culture Média.
À la une de ce journal des médias, Marie-Sophie Lacaro de retour aux 13h de TF1.
Oui, après 5 mois d'absence, la présentatrice va enfin retrouver son fauteuil lundi. Elle a posté une petite vidéo, c'était hier soir sur les réseaux sociaux.
Cela fait un long moment que je ne vous avais pas donné de nouvelles et j'en ai des positives. Enfin, je sais que je vais vous retrouver. Ce sera lundi, le lundi 16 mai. On se retrouvera à 13h pour le journal, évidemment, sur TF1. Et j'ai vraiment, vraiment hâte.
Marie-Sophie Lacaro, qui s'est confiée aussi auprès du Parisien aujourd'hui en France sur les raisons de sa longue absence. Une maladie des yeux au nom barbare de kératite amibienne. C'est en fait une infection de la cornée par des parasites présents dans l'eau du robinet. C'est très rare, hein, ça peut se développer quand on garde ses lentilles de contact sous la douche. Et la maladie lui a valu des semaines et des semaines de traitement très douloureux. Elle raconte notamment avoir vécu dans le noir pendant 2 mois, rideau fermé, sans pouvoir lire, regarder un écran, ni même écouter la radio ou de la musique à cause des maux de tête. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Pour être sûre aussi d'être suffisamment en forme pour revenir, elle a fait des tests toute cette semaine pour voir si elle pouvait tenir des journées de travail entières, écrire le JT sur un ordinateur, lire le prompteur, supporter les lumières du plateau. Test réussi. Elle sera donc à la présentation du journal de 13h lundi midi. On ne sait pas encore si elle aura des lunettes ou pas. Elle n'a pas voulu le préciser aux Parisiens. Avec ses lunettes, elle peut lire le prompteur. Sans lunettes, elle le ferait sans prompteur. On verra lundi.
Là, ça se passe sur Canal+. Florence Foresti va avoir sa propre série.
Désordre, série qu'elle a créée, écrite et réalisée. 8 épisodes de 30 minutes dans lesquels elle va aussi jouer son propre rôle, car c'est en fait une parodie de sa vie, son quotidien pendant l'écriture de son spectacle Épilogue en 2017. Son quotidien donc de, je cite, « mère en garde alternée, célibataire à la dérive, artiste en quête d'inspiration et angoissée chronique ». Tout un programme avec au casting également Baptiste Le Caplain et Audrey Lamy, entre autres. Alors la date de diffusion exacte n'est pas encore connue, mais Canal+ l'annonce pour la rentrée prochaine.
Télévision toujours, Patrick Poivre d'Arvor et Vincé de France Télévisions.
Le journaliste était la voix off du magazine de France 5, une maison, un artiste qu'il avait créé en 2011. Une collection de documentaires qui sera bien de retour à l'antenne cet été, mais sans lui, avec une voix différente, donc d'après Le Parisien aujourd'hui en France. Une décision de France Télévisions suite aux accusations de harcèlement sexuel et de viol qui visent PPDA.
La série HPI bat des records d'audience, vous l'avez dit, mais également des records au sujet des tarifs des publicités avant, après, pendant.
Mais oui, parce que quand on rassemble 9,5 millions de Français en moyenne devant le même programme, forcément, les publicités se négocient au prix fort, encore plus quand on parvient à attirer près de la moitié des femmes responsables des achats de moins de 50 ans sur sa chaîne. Les FRDA sont la cible privilégiée des annonceurs, je vous le disais, alors forcément, ils doivent passer à la caisse. Combien coûtait la publicité hier soir pendant les épisodes de HPI ? 150 000 euros brut le spot pendant la première coupure, d'après le site d'information Pure Média. C'est un record, hein, hors événement sportif. Pour vous donner un ordre d'idée des tarifs habituels, la semaine dernière, TF1 diffusait la série Une mère parfaite. La publicité entre C'est quand Lou, qui est diffusée juste avant, et la fiction coûtait 60 000 euros. Hier soir, c'était deux fois plus, 120 000 euros brut. Bon, on reste quand même loin des tarifs des Coupes du Monde, hein. Le record date de 2018, 364 000 euros pour le premier spot de la coupure pub. C'est évidemment lors de la finale France-Croatie.
Une nouvelle émission avec une présentatrice sourde profonde de naissance.
Virginie Delalande qui interviewe trois personnalités, non pas en langue des signes, mais bien avec sa voix.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Bini Payode. C'est la rencontre avec des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires.
Be Inspired, c'est une émission lancée sur la chaîne Bismart, chaîne économique créée par trois anciens de BFM Business, Stéphane Soumier, Valérie Bruchini et Pierre Friedenreich. Et c'est ce dernier qui a repéré Virginie Delalande et qui lui a proposé d'animer sa propre émission.
Ce qui est quand même assez dingue, c'est qu'elle est sourde profonde de naissance, qu'elle est devenue la première avocate, qu'en permanence elle a lutté pour contourner les barrières, pour ne pas dire les barbelés qui se dressaient devant elle, qu'on lui avait juré qu'elle ne parlerait pas, qu'elle ne serait pas capable de lire ni écrire, qu'elle n'aurait évidemment pas son bac, et en fait elle a tout défoncé. J'ai pris un coup de poing en pleine face, un uppercut, quand j'ai assisté à l'une de ses conférences. Son énergie, son charisme, son audace, son culot même ont renversé la salle, et c'était impossible pour moi de la quitter sans oser lui proposer de nous rejoindre sur Bismart. Et il se trouve que Bismart, c'est la chaîne des audacieux. Et donc, formidable, elle a accepté.
C'est elle qui choisit les personnalités qu'elle reçoit, avec un critère, qu'elles soient inspirantes, qu'elles aient choisi dans leur domaine de changer le monde. Par exemple, demain, sur le plateau, on trouvera un entrepreneur qui a traversé l'Atlantique à la rame, une des créatrices de contenu les plus influentes du réseau social professionnel LinkedIn, et puis la plus jeune lama occidentale qui a 19 ans et rentrée de 3 ans de retraite de méditation. L'émission est pour l'instant mensuelle, mais elle devrait être diffusée plus régulièrement à la rentrée. Cette chaîne Bismart continue donc de proposer des nouveaux programmes et des nouvelles têtes alors qu'elle s'apprête à fêter ses 2 ans début juin. L'occasion de dresser un petit bilan très positif selon son co-créateur Pierre Friedenreich.
C'est très excitant de pouvoir tous les jours mettre à l'antenne quasiment 10 heures de programmes frais avec à la fois des formats très généralistes et des formats très communautaires. On a un casting de présentateurs de très bon niveau qui va des plus expérimentés comme Michel Denisot ou Thomas Hugues, mais aussi de jeunes poussent très prometteurs comme Eva Ben Saïdi. Et je crois que ça correspond aujourd'hui à un besoin, et notamment celui. Et on n'est pas submergé en France par ces chaînes-là de donner la parole à des entrepreneurs inspirants et qui ont souvent plein de talents à partager avec ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent.
Et cette chaîne Bismart est disponible sur les box de presque tous les opérateurs et sur Internet. L'émission Be Inspired, présentée par Virginie Delalande, est diffusée demain à 11h30, puis à 16h, et ensuite dimanche à 14h30 et à 18h.
Et ça, c'est pas drôle, la série drôle n'aura pas de saison 2.
Oui, c'est cette série de Netflix sur le stand-up, nouvelle création de Fanny Herrero, à qui on doit 10%. La qualité, la fraîcheur de la série drôle avait pourtant été largement saluée par la critique. Alors pourquoi l'arrêter? Les audiences, pas assez satisfaisantes d'après Netflix. Je ne peux pas vous les donner puisqu'on ne les connaît pas, hein. La plateforme ne les communique jamais. Mais d'après les Inrock, plus de 2/3 de la saison 2 étaient déjà écrits. Mais Netflix ne peut pas se payer le luxe de continuer de produire des contenus qui ne marchent pas suffisamment à son goût. La plateforme perd des abonnés pour la première fois en 10 ans, plus de 200 000 dans le monde au premier trimestre.
Et puis on termine ce journal avec un petit mot sur l'Eurovision qui aura lieu demain soir. La soirée sera commentée même en Ukraine.
Le présentateur ukrainien va animer la soirée depuis un bunker. Timur Miroshnichenko, je savais que j'allais buter dessus, on y retourne. Timur Miroshnichenko, le Stéphane Bern ukrainien, commente la compétition depuis 15 ans. Et ce n'est pas la guerre qui va l'en empêcher cette année. Il bénéficie d'une installation avec 3 studios et une régie capable d'émettre même en cas de bombardement. Évidemment, la localisation de ce bunker n'est pas connue pour des raisons de sécurité. Il a déjà commenté la demi-finale mardi et donc la qualification de son pays pour la finale demain soir. Les Ukrainiens, le groupe Kalush Orchestra, qui sont d'ailleurs les grands favoris de la compétition. Voilà pour la chanson Stéphania.
Et Bruno Donnet va la décrypter tout à l'heure, juste après 10h, dans Culture Média sur Europe 1.
Oui, et en France, l'Eurovision sera diffusée sur France 2 demain soir à 21h. Et même si les Ukrainiens sont favoris, on peut quand même encourager nos candidats à nous, non? Le groupe breton Alvan et Aez. On se quitte en musique?
Évidemment. Ça sent la deuxième place derrière les Ukrainiens.
Ça peut. Ouais. Ça peut. C'est la force de la Bretagne.
Il paraît que tous les pays vont voter pour l'Ukraine en premier. Ça serait pas plus mal. Merci beaucoup.
Et la chanson est super bien.
On est d'accord. Louise Bernard. Et en fait, c'est facile à prononcer. Stéphane Bern. Merci beaucoup, Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Je vous ai eu. Inscription gratuite sur europe1.fr à lundi pour un nouveau journal des médias, Louise.
À lundi avec le vainqueur de l'Eurovision.
Évidemment.
Je vous le donnerai.
Et les audiences du week-end. Évidemment. Dans un instant, sur Europe 1, notre info média du jour, le poids des mots, le choc des photos et désormais l'importance du clic. Paris Match lance une nouvelle offre d'abonnement numérique. Pourquoi ce choix? Que contient-elle? Question qu'on va poser à Caroline Mangez, c'est la directrice de la rédaction de Match, et Olivier Landresse, le directeur du numérique de Lagardère News. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec près de 500 000 exemplaires en diffusion payée France, c'est comme ça qu'on dit, il reste le premier hebdomadaire d'actualité du pays et l'un des plus prestigieux. Le magazine Paris Match, propriété du groupe Lagardère, faut-il le dire, tout comme Europe 1, a annoncé hier le lancement d'une offre d'abonnement 100% numérique afin d'accélérer son développement. Paris Match, le poids des mots, le choc des photos et les hashtags dans tout ça. Car à l'heure des réseaux sociaux et donc du numérique, les mots nous sont jetés à la figure en permanence, sans aucune mesure ou recul, trop souvent. Et le choc des images est continu. On pense aux images de la guerre en Ukraine, visibles en direct sur Twitter. On pense à la mort de cette journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, tombée sous les yeux des caméras il y a 2 jours en Cisjordanie. Bonjour Caroline Mangez.
Bonjour Philippe.
Vous êtes la directrice de la rédaction de Paris Match. Avec nous, avec vous, Olivier Landresse. Bonjour.
Bonjour.
On vous connaît bien ici. Vous êtes le directeur du pôle numérique de Lagardère News. Caroline Mangez, je commence par vous. Cette image du corps de cette journaliste Shirin Abu Akleh qui gît au sol, il y a 20 ans, on l'aurait découvert dans Paris Match. Aujourd'hui, elle est disponible sur Twitter quasiment en temps réel. Comment arriver à vous distinguer dans ce flot d'anathèmes, d'images choc visibles aux yeux de tous?
Et on est dans une temporalité complètement différente parce que c'est vrai, moi j'ai connu l'époque où on shippait les films avec des... Alors il y a eu une époque même avant moi où c'était avec des pigeons voyageurs.
C'est pas vrai.
Et puis à Sarajevo, on allait à l'aéroport, on trouvait un passager qui reprenait l'avion, qui l'amenait à l'aéroport, etc. Et tout ça, c'était très pratique. Aujourd'hui, c'est différent. Ben, on fait un pas de côté, c'est-à-dire que soit on va aller rencontrer la famille de Chirine, récupérer ce qu'on appelle un match et qui est un classique du genre, la boîte à chaussures, c'est-à-dire la vie de Chirine. Qu'est-ce qu'elle était avant? Est-ce qu'elle avait un homme dans sa vie? Est-ce qu'elle avait des confrères? Le dernier repas entre confrères, etc. Et on va raconter sa vie autrement, donner de l'étoffe à ce personnage, et c'est ça, Match, en fait. C'est rentrer par des petites histoires humaines dans la grande histoire.
Vous m'avez pris un mot, je connaissais la raflette quand on va récupérer les photos des gens, je ne connaissais pas la boîte à chaussures. Malgré ce flot incessant d'images sur le net, Caroline Mangès, Match, le magazine papier, est en bonne santé. 496 925 exemplaires en diffusion payée 2021, une croissance de 0,2%. Je le cite parce que le marché lui-même est un peu baissier, moins 0,9. Pourquoi est-il nécessaire alors de mettre les bouchées doubles sur le numérique ?
Alors, plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on sent qu'on est mûr, parce qu'on a une vraie audience sur le numérique. Et d'autre part, parce qu'on a un projet collectif qui était d'avoir un site qui se distinguent de ce que font Le Monde, Le Figaro, qui sont excellents dans leur domaine, mais qui ne ressemblent pas à Match. On est un journal un peu hybride, très unique, un journal d'information, mais qui traite à la fois de grands reportages et de personnalités célèbres. Et on a envie d'un site qui ressemble à ce qu'on est, nous, aujourd'hui.
Vous tendez une jolie perche. Qu'avez-vous, qu'a Match, que les autres n'ont pas ?
On a cette façon... Alors, on a l'image, le choc des photos. Et on a le poids des mots. Et on a ce storytelling très particulier à Match qui est de raconter des histoires humaines pour amener les gens à comprendre des situations parfois très très complexes. Et des plumes, parce que depuis de tout temps, on a eu des écrivains, on a des journalistes qui écrivent sur la longueur. On a une petite période où on nous disait oh, les gens lisent pas, il faut leur faire des petits chapeaux, etc. On est revenu à des grands textes, de grandes enquêtes. Et on a ce temps que n'ont pas les quotidiens, de l'hebdomadaire, d'aller en profondeur dans des sujets.
Alors Olivier Landrès, je me tourne vers vous. Paris Match propose donc une nouvelle offre d'abonnement numérique. Que contient-elle et pour quel prix ?
Alors, c'est une offre d'abonnement qui a pour ambition de coller à ce qu'est le magazine. C'est ce qu'a décrit Caroline. On a une baseline, un peu une promesse qui est entrée dans l'histoire avec Paris Match. C'est entrée dans la grande histoire par toutes ces petites histoires que raconte le magazine. Et en fait, ça se traduit de plein de manières. Alors, l'offre, déjà pour commencer, ça va être une offre d'abonnement 100% numérique à 7,90€ par mois, premier mois offert. Mmh. Et en fait, ce qu'il va y avoir dedans, il va y avoir plusieurs choses. La première chose, c'est un peu la base, c'est l'accès au magazine en avant-première pour nos abonnés. Hein, le magazine, il est publié le jeudi matin, il sera disponible le mercredi à 20h.
Donc 100% numérique, c'est-à-dire que c'est en PDF, on a le vrai journal en PDF, on n'a pas
exactement
seulement les articles recomposés.
Et en avant-première, et plutôt que ce qu'on faisait jusqu'ici. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'on a accès aussi à l'ensemble du site en intégralité, y compris les articles premium. Je rappelle, le site, c'est plus de 400 articles chaque semaine, c'est 20 articles premium chaque jour, disponibles dans l'abonnement numérique. Le deuxième point, c'est une offre de contenu très riche et qui va être articulée autour d'un concept nouveau, qui est le concept des grandes collections. Ces grandes rubriques de contenu qui font en fait ce qu'est Paris Match et une promesse spécifique.
Par exemple, qu'est-ce que vous appelez une grande collection ?
Une grande collection, en fait, on a repris ce qu'était Paris Match, cette spécificité, ce caractère hybride dont parlait Caroline, et on l'a décomposé. Alors, il y en a qui sont assez classiques. Les royautés, évidemment, sont une grande collection de Paris Match et une spécificité. La politique, on a voulu sortir de ce qu'est la politique, la rubrique politique classique. Qu'est-ce que c'est la politique selon Paris Match ? C'est la saga politique, raconter les gens qui font la politique. C'est Alexis Kohler dans le numéro de cette semaine. Et c'est raconter ceux qui font notre vie politique en France.
Alors justement, hein, puisque vous parlez de politique, il y a l'offre numérique. Mais pour les abonnés, vous proposez également du réel. Vous annoncez des petits déjeuners privilégiés, par exemple avec votre journaliste politique, Bruno Jeudy, avec les sondeurs de votre partenaire ou des grands reporters. Bruno Jeudy, il va venir, il va apporter les viennoiseries.
On fera ça dans un café peut-être.
Non, mais comment ça va se faire ?
Mais non, mais Paris Match, c'est aussi une grande famille. C'est
non,
une,
mais ça
une
va histoire. Se passer dans un café.
Ça, bah oui, ça ouais. peut dans se passer dans un café ou sur notre terrasse ici, qui est remarquable D'accord. et agréable. Et on fera venir des gens, des lecteurs sélectionnés, peut-être avec un quiz. Ouais. Et il y a une grande appétence pour rencontrer Bruno jeudi. Je le vois à chaque fois que je vais avec lui déjeuner quelque part. Ouais. Les gens le regardent, etc. Et effectivement, on a envie de développer une interactivité avec une communauté de lecteurs.
Mais... Je souris parce que moi, je ne suis pas matinal. Mais est-ce que lui, il est content d'aller prendre le petit-déj à 8h du matin avec des gens qu'il ne connaît pas?
Oui, je pense que ça l'amuse beaucoup.
Oui, parce qu'on a pensé ça avec lui.
D'accord, j'espère qu'il ne le découvre pas maintenant dans Culture Média. On continue, on a encore plein de questions à vous poser. Caroline Mangès, Olivier Landres sont avec nous, donc avec vous, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de la nouvelle formule, nouvelle offre d'abonnement numérique autour de Paris Match. On est avec Olivier Landres, c'est le directeur du numérique ici à Lagardère News. Et Caroline Mangès, vous êtes la directrice de la rédaction de Paris Match. Paris Match, on connaît évidemment la formule, le poids des photos. Quid de la vidéo? Quel usage en faites-vous de la vidéo à Paris Match?
Alors, on est en plein développement. On le décline sur des sujets qu'on fait avec des invités qu'on reçoit et qui viennent en studio. Et puis, comme tous les Français aujourd'hui, nos journalistes sont équipés de portables, ça les amuse, ils sont sur les réseaux sociaux. Et donc, quand ils assistent à des choses exceptionnelles, ils filment. On peut filmer des coulisses d'un shooting, on peut faire de la vidéo quand on est sur un terrain de guerre et qu'on a un photographe à côté de soi et qu'on n'est pas en train d'écrire. Donc, on a de plus en plus de matériel vidéo.
Et les photographes, est-ce qu'ils font également de la vidéo? Parce que maintenant, les appareils photo, par exemple, je pense au D5 qui fait des très 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 belles images. On voit ça en télévision, on peut filmer avec une très basse lumière. À la base, c'est un appareil photo.
À la base, c'est un appareil photo. Alors, la difficulté, c'est à quel moment vous débrayez pour faire la plaque qui va être dans le match et la vidéo.
C'était ma question. Et justement, à quel moment ils débrayent? Est-ce qu'ils peuvent débrayer? Ou est-ce que c'est impossible? Quand on fait un papier et des photos pour un magazine, on ne peut pas faire occuper son cerveau à autre chose qu'à penser aux photos.
Sur de l'action, c'est difficile de débrayer. En revanche, quand le journaliste fait une interview d'un personnage central et que le photographe est là à se tourner les pouces, là, il faut qu'il filme.
Alors justement, on parlait d'interview à la suite de la disparition de la chanteuse Régine. Vous avez republié une interview vidéo de La Reine de la Nuit, interview donnée à votre journaliste Joséphine Simon-Michel. C'était en 2016. Régine y parlait de sa mort, ou plutôt de sa non-mort.
Vous avez peur de la mort?
Moi? Ouais. Pas du tout. Pas du tout, du tout. De toute façon, j'ai jamais eu peur de rien. Vous savez, la peur, c'est quelque chose de paralysant. Moi, je peux pas être paralysée. Je suis une survivante, j'ai besoin d'être en action en permanence. Et puis, je trouve, la seule chose que je trouve extraordinaire, c'est d'avoir cette énergie, cette envie, et d'être sur scène, sur mes talons, et d'être aussi à l'aise que quand j'avais 25 ans.
Et qu'est-ce que vous avez envie qu'on dise de vous dans 50 ans?
Dans 50 ans?
Ouais.
Je serai toujours là. Dans 50 ans, c'est moi qui parlerai de moi.
Dans 50 ans, ça nous amenait en 2066, Régine qui s'imaginait encore là. Olivier Landres, on a vu les moyens de donner un match pour la vidéo. Quid des podcasts?
Alors les podcasts, on a déjà commencé à expérimenter les podcasts pour Paris Match. Il y a 2 ans, avec Paris Match Stories, et c'est quelque chose qu'on va reprendre dans les prochains mois. Ça part d'un principe simple, le podcast, comme Paris Match, c'est le récit. C'est raconter le monde qui nous entoure par le récit, et c'est aussi montrer les coulisses de l'actualité. Donc on a des projets en cours, ils sont encore à lancer, et ça va faire partir du déploiement qu'on va avoir pour le numérique de Paris Match.
Alors, dans l'esprit des gens, le Paris Match est d'abord des unes très fortes. Les meilleures unes, Caroline Mangès?
Les meilleures unes, Jean-Pierre Pernaut, enfin récentes. Hein, les frères Bogdanov avec l'énigme de la mort de ces deux jumeaux qui était complètement incroyable. Gaspard Ulliel, parce que c'est un destin à la James Dean, avec un papier magnifique de Philippe Labreau qu'il a fait à toute vitesse en nous épatant. Et puis, curieusement, davantage l'histoire de Dominique Tapie que Bernard Tapie a laissé sur la paille que la mort elle-même de Bernard Tapie. Ce qui montrait que le personnage était un peu clivant, mais qu'en revanche, il y a eu une émotion autour de ce que vivait sa femme après sa disparition.
Évidemment, puisque vous révéliez qu'elle était quasiment sans le sou, même si j'exagère évidemment dans les termes. Alors, il y a une ici qui nous a particulièrement marqué, celle de la semaine dernière, qui présentait Poutine, Alina, sa femme cachée. Alina Kabaeva, c'est une championne de gymnastique. Elle est surnommée la femme la plus souple de la Russie, avec laquelle le président entretient une liaison depuis 2006. Elle va devenir d'ailleurs députée pour son parti. Mais cette femme, ai-je appris en lisant Match, a aussi un rôle médiatique très important auprès du chef du Kremlin. Lequel? Réponse de Caroline Fontaine. C'est l'auteur de l'enquête. Elle est au micro de Louise Bernard.
On réalise que non seulement elle est évidemment très très proche de Poutine, elle partage sa vie, mais elle est aussi un maillon essentiel dans sa chaîne de pouvoir, puisqu'elle est à la tête du plus gros groupe de propagande russe. Et à ce titre, elle participe à tout ce qui est en train de se passer avec l'Ukraine et toute cette histoire qu'il essaye de raconter sur sa guerre contre une Ukraine nazie.
Comment on monte une telle enquête, Caroline Mangez ?
Alors ça a commencé très tôt, en fait Alina est un no fantasme, donc on apprend qu'au départ de la guerre en Ukraine, elle est à Lugano, et là on se dit comment on fait, est-ce qu'on envoie Pascal Rostin, Catherine Schwab qui est un peu suisse,
Lugano c'est en Suisse, hein.
Voilà, et on se casse un peu les dents, et puis finalement on se dit, bon, on va rechercher des photos, qu'est-ce qui existe en photo d'Alina et Poutine, et puis on s'est rapproché de Novaya Gazeta, cette rédaction qui a été menacée en Russie, qui a migré à Riga, Caroline a fait un premier sujet avec eux, et par leur intermédiaire, on a réussi à faire remonter des informations, à savoir où elle était et à pouvoir dresser ce portrait de cette femme totalement mystérieuse. On ne sait même pas combien d'enfants exactement ils ont ensemble.
Voilà, je crois que vous allez me dire, on ne sait même pas si elle a lu le papier. Il y a aussi un nouveau site, une nouvelle appli, Olivier Landresse.
Oui, c'est une refonte complète en fait qu'on fait. Il y a l'offre éditoriale, il y a le lancement de l'abonnement numérique, il y a un nouveau site, une nouvelle application et puis même un nouvel outil de publication pour les journalistes. C'est une refonte complète de l'offre numérique de Paris Match qu'on fait en ce moment. Ça a commencé il y a quelques jours et ça va continuer jusqu'en juin.
J'ai vous demandé, si on se branche maintenant, si on se connecte maintenant, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui n'est pas encore en place?
Pour l'instant, c'est les pages articles qui ont changé. Le reste du site arrive au début du mois de juin. On a quand même l'abonnement numérique qui est là maintenant. Hein. Si vous écoutez, vous voulez vous abonner, vous pouvez
c'est
le
maintenant.
Faire. Voilà, c'est maintenant. Et puis un peu plus tard en juin, on a l'application mobile qui arrive, mobile et tablette.
Merci beaucoup Olivier Landresse, je rappelle que vous êtes le directeur numérique de Lagardère News, Caroline Mangez, vous êtes la directrice de la rédaction de Paris Match, la une de Match et Joe Biden monte au front, le soutien à l'Ukraine, sa bataille pour l'IVG et puis évidemment, en appel de une, Elisabeth II, j'ai l'impression qu'on va encore en parler d'Elisabeth dans Paris Match. Merci d'avoir été avec nous dans Culture Média. Dans un instant, vous savez quoi, on va parler moto, c'est le Grand Prix de France ce week-end, nous serons avec les commentateurs de la moto GP sur Canal+, c'est Laurent Rigal, le nouveau commentateur, et le consultant, l'ancien pilote de vitesse, Randy de Pugnet. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Laurent Rigal.
Bonjour Philippe.
Vous êtes depuis cette saison le commentateur des Grands Prix de moto sur Canal+, on dit désormais la moto GP. Et avec vous, et avec nous dans ce studio, et avec vous en cabine, Randy de Pugnet, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes ancien pilote moto en Grand Prix, vitesse jusqu'en 2013. Combien de départs ?
140. Laurent, il est meilleur que moi au niveau
140.
Des 140 en MotoGP et 250 peut-être au total.
Combien de podiums ?
2 en MotoGP, 24 au total et 5 victoires.
Depuis 2019, vous êtes le consultant sur les Grands Prix moto diffusés sur Canal. L'actu, c'est le Grand Prix de France moto, c'est ce week-end sur Canal+, mais aussi sur C8. Je vais le dire une fois, je le redirai à la fin. Les qualifs, c'est samedi, donc demain à 14h. L'émission en pôle à 16h et la course dimanche à 14h. Et sur Canal et sur C8. On va commencer par ça, tiens d'ailleurs. Les audiences de la moto sont excellentes, on va le dire, personne s'y attendait. L'année dernière a été un record pour Canal+, l'audience a doublé en 2 ans. Est-ce que vous avez les chiffres en tête ?
Alors on est monté à plus d'1 million hein, sur pas mal de grands prix. On est monté à 1,8 million quand c'est codiffusé avec C8. Donc c'est vraiment des scores qui, depuis 2019, ont doublé plus que ça même.
1,8 million, j'ai le chiffre, c'était 1,1 million sur Canal+, 735 000 sur C8. Ça fait plus 12% la moto sur Canal par rapport à l'an dernier et plus 92% par rapport à 2019. Je donne beaucoup de chiffres, mais c'est un sport mécanique, il y a des chiffres. Alors, il faut dire qu'il y a aussi du nouveau. Le champion du monde, c'est une première dans l'histoire. C'est un Français, Fabio Quartararo. Laurent Rigal, vous le connaissez bien, si j'ose dire. Vous avez débuté ensemble.
Exactement. En 2015, on est arrivé la même année sur les Grands Prix. Lui, il arrivait dans la catégorie Moto 3 que je commentais à l'époque avec le Moto 2. C'était un bébé. Hein. Il avait 15 ans. Il avait même une dérogation pour pouvoir rouler à 15 ans parce que normalement, c'est 16 ans, l'âge limite à l'époque. Qui va augmenter maintenant dans quelques années. Et donc, je l'ai suivi depuis 2015, effectivement.
Donc, vous êtes copains, j'imagine.
On est copains, oui. Alors, c'est vrai que maintenant, avec son statut de champion du monde, c'est un petit peu plus difficile de passer du temps avec lui. Mais oui, on se connaît bien.
Et il vous dit encore bonjour, quand
bien
même.
Bien sûr, bien sûr.
Randy de Pugnet, vous avez couru avec lui ou pas du tout?
Ah non, pas
non,
du tout.
Ça n'a jamais pu se faire.
Bah non, on a trop d'écart d'âge. Hein. Il y a presque 20 ans. Je suis vieux, moi, maintenant.
Ouais.
Mais non, voilà, Fabio Quartararo fait partie des pilotes exceptionnels en MotoGP, comme il y a eu Valentino Rossi auparavant, Marc Marquez, faire ce qu'il a fait et c'est ce qu'il fait à son jeune âge, c'est impressionnant.
Il est de cette trempe-là, parce que chaque année, il y a un champion du monde. Mais vous dites qu'il fait partie des très très grands champions du monde.
Oui, après, vu son parcours, ce qu'il démontre en piste, pour moi, oui, il fait partie des très grands. Et même s'il a un seul titre pour le moment, faut pas oublier que c'est sa troisième saison seulement en MotoGP. S'il continue comme ça, il va y en avoir plein d'autres.
Fabio Quartararo est devenu champion du monde l'an dernier. C'était à l'issue du Grand Prix d'Émilie-Romagne. On va entendre la fin du dernier tour. C'était sur Canal+.
Sur la tête de la course, Fabio Quartararo va franchir la ligne debout sur sa Yamaha. Non, il lève le bras. Fabio Quartararo est immense une nouvelle fois. Une nouvelle victoire du pilote français Fabio Quartararo. Deux victoires d'affilée pour le français devant Bagnaia, Mir, Morbidelli et Marc Marquez qui franchit la ligne d'arrivée en 7e position. Regardez Fabio Quartararo, il exulte avec les commissaires de piste. Ouais, des chèques pour le pilote français, c'est fabuleux.
Le son est extraordinaire, je vous souhaite à tous d'avoir une grosse télé chez vous avec du gros son. C'était pas vous Laurent Rigal au commentaire, c'était David Dumain. Et c'est assez rare pour être signalé, il a rendu public sa décision, c'est lui qui a arrêté.
Exactement, il a décidé professionnellement de changer, il a beaucoup d'activités différentes, donc voilà, il a décidé d'arrêter. Moi, ça me donne une super opportunité de continuer, parce que ça faisait quelques années que je faisais déjà le Grand Prix. Je l'ai remercié.
Vous lui avez envoyé une boîte de chocolat ?
Pas une boîte de chocolat, mais on s'entend bien, il n'y a aucun souci, et donc voilà, on lui souhaite bon vent, bien sûr.
Il y a un deuxième Français qui est très fort, il y a une petite dizaine d'années, on pensait que c'est lui qui allait tout cassé, il n'est pas devenu champion du monde, mais il est toujours là. Johan Zarco, pensez quoi de lui, Randy de Pugnet ?
Bah, c'est un très bon pilote, double champion du monde Moto2, et beaucoup de podiums en MotoGP, c'est un pilote solide qui fait partie des meubles, entre guillemets, mais lui manque le petit truc, que je pense à Fabio Quartararo, pour aller chercher des victoires et des titres. Maintenant, il fait du très bon travail, il a fini 5e du championnat du monde l'an passé, mais il aurait vraiment besoin d'une victoire pour peut-être le décomplexer, beaucoup de podiums, mais il lui manque ça, la victoire pour dire « Ouf, enfin, je l'ai fait, je peux le faire et je vais peut-être pouvoir le refaire. »
Et ça aussi, deux Français, ça ramène du monde devant la télé. Quartararo et Zarco ont fait le doublé il y a 2 semaines, c'était au Grand Prix du Portugal. Ils avaient déjà fait un doublé à Doha au Grand Prix du Qatar. C'est deux potes ou c'est les frères ennemis ?
C'est pas vraiment ni l'un ni l'autre en fait, parce qu'ils sont pas plus copains que ça. On les voit discuter, ils s'entendent bien de temps en temps. Voilà, ils parlent ensemble. C'est pas du tout des ennemis, et c'est vrai que on a aussi l'impression qu'ils se rendent compte de l'importance que ça a aussi pour faire monter le sport moto en France, d'avoir des Français qui fonctionnent, et s'ils s'entendent bien, c'est encore mieux. Voilà, il n'y a pas de guerre du tout entre les deux, et ce n'est pas non plus les super potes.
Les deux chaînes, puisqu'on parle des frères ennemis ou des potes, les deux chaînes C8 et Canal+, font partie du même groupe. Le Grand Prix, on pourra le voir dimanche à 14h et sur Canal, commenté par vous deux et sur C8. Pourquoi ce n'est pas le même signal sur les deux chaînes ?
Alors c'est Maxime Martin et Jules Danilo qui vont commenter sur C8. Effectivement, en Argentine, il y avait déjà eu codiffusion, mais c'était Canal+ décalé et C8. Là, ils avaient pris le même signal. Donc c'était Randy et moi qui commentions la même chose sur les deux chaînes. Là, ce n'est pas possible parce qu'en fait, Canal+, qui va diffuser le Grand Prix, est considéré comme une chaîne de la TNT, ce qui est le cas aussi de C8. Et c'est interdit d'avoir le même signal sur deux chaînes de la TNT. Voilà la raison.
Le CSA veille partout, on dit l'ARCOM maintenant, ça aussi on y veille. Culture Média continue, on va raconter ce qui se passe sur les Grands Prix moto, comment ça se passe et pourquoi c'est aussi excitant à voir sur place et à voir à la télévision. Culture Média revient.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle du MotoGP dans Culture Média, ce sont les courses de moto, c'est désormais sur Canal+, c'est la 3e saison, le commentaire est signé Laurent Rigal, avec lui et avec nous, le consultant Randy de Pugnet. Des motos qui vont très très vite, moi je me souviens quand c'était des 500, c'était deux temps qui avaient un bruit incroyable, maintenant c'est 1000 chevaux, ça représente quoi 1000 cm3, ça représente quoi en termes de chevaux, Randy de Pugnet ?
Bah 300 chevaux, tout simplement, donc c'est quand même des machines
c'est
très
puissantes. C'est la puissance d'une voiture très puissante, elle-même très lourde, qui pourrait faire 1,2 tonnes, 1,3 tonnes. Une moto pèse combien ?
Bah, 155 kilos.
Mon Dieu. C'est quoi le danger de ces motos-là ? Est-ce qu'il y a du danger ou pas ?
Il y a du danger, forcément. C'est un sport mécanique, c'est du deux roues. Maintenant, pour qui peut expliquer, on roule sur des circuits, on est très protégé. Ce genre de machine ne pourrait pas rouler sur route. Et le danger, bah, c'est de maîtriser cette machine, même s'il y a beaucoup d'assistance, que ce soit du traction control. Alors, c'est de l'assistance électronique pour un peu baisser puissance.
C'est de l'antipatinage.
Voilà, tout à fait.
Ça empêche que l'arrière vous passe par-dessus la tête, comme c'était le cas avant.
Voilà, mais ça peut quand même arriver. Et ça prouve une autre chose, c'est que ces pilotes, bah, voilà, ce ne sont pas des êtres normaux pour pouvoir piloter ce genre de machine.
C'est drôle cette phrase, parce que vous-même, vous êtes pilote, vous vous considérez comme un être pas tout à fait normal.
Oui, je pense que...
Pas normal, Randy, c'est sûr.
on a tous quelque chose, que ce soit des pilotes de Formule 1, de moto, pour faire ce genre de choses, prendre autant de risques. C'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans notre tête. Hein.
Laurent Rigal, vous êtes un peu pilote.
J'ai été il y a très longtemps.
Elles sont vraiment inconduisibles, ces motos?
Alors, je suis jamais monté sur une moto GP. Moi. Non, moto
vous n'avez jamais essayé?
Non, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer une moto GP. Maintenant, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, les motos les plus puissantes du commerce en sont très très loin. Donc, la première fois que Fabio...
Elles sont bridées à 100 chevaux, c'est ça?
Alors, plus maintenant.
Ah.
Plus maintenant, mais c'était, à l'époque, c'était ça. Maintenant, les motos de série peuvent faire plus de 200 chevaux. On n'arrive quand même pas aux 300 chevaux d'une MotoGP, mais la première fois que Fabio est monté sur la MotoGP, lui qui avait déjà beaucoup d'expérience en course, il était choqué en descendant. Il m'a dit dans la ligne droite, j'ai freiné presque au milieu de la ligne droite tellement ça va vite. Donc les pilotes, la première fois qu'ils essayent ces motos-là, sont choqués.
Il y a toujours un déficit avec l'autre catégorie reine des sports mécaniques, la F1. Comment vous l'expliquez? Que manque-t-il à la moto pour que les deux catégories soient au même niveau médiatique?
C'est difficile à dire. Aujourd'hui, il y a un très beau spectacle en moto. Ça dure 45 minutes. Il y a de la bagarre. Formule 1, il y a de la bagarre aussi, mais beaucoup moins. Tout simplement parce que les voitures sont plus imposantes que les motos. Je pense que c'est au niveau de la culture. En France, là, aujourd'hui, on voit qu'avec deux Français qui se battent pour être champion du monde, on a un champion du monde, ça commence à prendre. On va avoir un Grand Prix de France avec plus de 100 000 personnes. C'est le cas depuis de nombreuses années. Au niveau des audiences télé, ça augmente. Donc, petit à petit... Je pense qu'on se rapproche de la Formule 1, notamment en France.
Et on peut remarquer que les pilotes sont davantage disponibles pour les médias. Fabio Quartararo a participé par exemple à l'émission Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Ça paraît impensable pour quelqu'un comme Pierre Gasly ou Charles Leclerc en Formule 1.
Bon, on a vu pas mal de pilotes de F1 maintenant participer à des émissions comme Click aussi. Donc... Ça en prend le chemin aussi, ça devient un peu plus hype aussi, ces sports mécaniques-là, ça devient de plus en plus jeune aussi. Ouais. La clientèle, entre guillemets, devient jeune et c'est bien.
Laurent Rigal, je sais un peu de quelle manière vous êtes venu au commentaire à la moto. Vous êtes le fils d'un ancien pilote, Hubert Rigal.
Oui.
Vous avez également commencé par la radio, sur la bande FM, Voltage, et puis Europe 2.
Ouais, Europe 2.
On a un extrait? Non, je déconne. Il avait peur de ça. Europe 2, c'est l'ancêtre, si j'ose dire, de Virgin Radio. Comment vous êtes passé au sport mécanique?
Alors, en fait, j'ai fait une école de radio après le bac, après le lycée. J'ai toujours aimé ça. Moi, je gérais la radio de mon lycée à l'époque aussi. Et ensuite, moi, j'étais toujours moto, donc par l'intermédiaire de mon papa. Donc, j'ai toujours fait de la moto. J'ai fait un petit peu de compétition. À l'époque où Randy aussi était sur les petites 125, voilà. Moi, ça s'est arrêté assez rapidement. Lui, il a continué. Et puis, à un moment donné, la radio, ça commencé un peu à peut-être me plaire un petit peu moins et j'ai voulu voir d'autres choses et j'ai pu mon amour de la radio, de la voix, eh bien le transmettre avec les sports mécaniques. Donc je suis arrivé à Motors TV, une chaîne de sports mécaniques française, et j'ai commencé en stage, voilà, et je faisais un peu tout, notamment les bandes annonces. Voilà, ça a commencé comme ça.
Si je me souviens bien, c'est la chaîne de Jean-Luc Leroy.
Jean-Luc Leroy, tout à fait.
Randy de Pugnet, j'ai la question inverse. Comment vous êtes passé de la moto au commentaire? C'est Canal qui est venu vous chercher?
Moi, j'ai attaqué après mon arrêt en Grand Prix, donc 2013-2014, j'étais encore pilote d'essai pour KTM et j'étais sur la chaîne qui commentait à l'époque, Eurosport, qui m'ont recruté. Et ensuite, quand Canal+ a repris les droits, ils m'ont demandé si ça m'intéressait de continuer avec eux. J'ai dit bah bien sûr. Au début, j'ai eu un peu de mal à trouver ma place sur les premières courses parce que j'avais toujours envie d'être pilote, j'avais toujours le niveau. Et une fois que j'ai digéré ça, bah j'y ai pris du plaisir et j'y prends toujours autant de plaisir.
Est-ce que vous êtes libre de parole? Je dis ça parce que vous connaissez beaucoup de pilotes. Est-ce qu'on peut dire ce qu'on veut quand ce sont vos potes qui se tirent la bourre?
Moi, je dis ce que je pense. Je ne vais pas aller enfoncer un pilote, mais si un pilote fait quelque chose de pas bien à mes yeux, que ça soit quelqu'un
vous
que je côtoie pas, je le dis.
Parce que c'est ce qui a changé. Quand Canal+ est arrivé sur TF1, tous les commentaires étaient très diplomatiques. Et quand Jacques Villeneuve est arrivé et qu'il trouvait un type était nul, il le disait. Quand il pensait qu'il était tellement dangereux qu'il fallait l'exclure de la F1, il le disait aussi à l'antenne. Vous-même?
Oui, après, je ne vais pas dire qu'un pilote est nul. Je dis ce que je pense, je me mouille, je prends aussi position. Voilà, j'essaye de donner aussi mon avis, de m'avancer sur des choses qui vont se passer. Alors, je n'ai pas tout le temps raison, mais ça me plaît de fonctionner comme ça.
Laurent Rigal, vous avez un gimmick à vous. En F1, Julien Febraud commence tous les Grands Prix par monter le son au rendez-vous au premier virage. Vous, c'est encore plus simple, et boum, la preuve.
Et boum ! Le Grand Prix d'Espagne 2022, c'est parti avec un excellent départ du poleman.
Et pour le plaisir, on a le même en version courte.
Et boum !
Vous l'avez déposé, le e-boom ?
Pas encore, non.
Ben, dépêchez-vous, c'est juste mon seul conseil. En septembre dernier, Canal+ a annoncé la prolongation pour 6 ans, 6 saisons supplémentaires des droits exclusifs de diffusion du championnat du monde du MotoGP jusqu'en 2029. Et vous ? Vous avez un contrat jusqu'à quand ?
Alors moi, ça se joue Grand Prix après Grand Prix pour le moment. Ouais. Donc j'espère être là jusqu'en 2029 au moins.
Randy de Pugnet ?
Moi, j'ai encore une année de contrat et on verra après si ils ont envie de me garder, si j'ai envie de continuer. On se prend pas la tête, on passe du bon temps, on est une bonne équipe. Donc moi, ça me dérangerait pas de continuer, puis surtout de commenter des courses aussi belles. Franchement, on se fait plaisir à le faire.
Ah, c'est le drapeau à damier. C'est terminé pour cet entretien. Merci beaucoup Laurent Régal, merci Randy de Pugnet. Le Grand Prix de France Moto, on dit MotoGP désormais, c'est ce week-end sur Canal, mais aussi sur C8, sur Canal. Les qualifs, c'est samedi à 14h. Il y a l'émission En Pôle à 16h. La course dimanche sur les deux chaînes C8 et Canal+, à 14h. Merci d'avoir été avec nous dans Culture Média.
Merci beaucoup.
Culture Média qui continue après les infos de 10h. On va retrouver les télescopages de Bruno Donnet. Il connaît déjà Matibi, la chanson qui va gagner demain le concours de l'Eurovision, et il nous a promis de nous la faire écouter. Notre invité, c'est le chanteur, guitariste, compositeur Axel Bauer. C'est son nouvel album dont on parle, Radio Londres. Et puis dans Les Indispensables, Olivier Benkemoun nous dira tout ce qu'il pense du documentaire Tourné pour vivre qui a suivi pendant 7 ans le réalisateur Claude Lelouch. Et puis on va partir avec de la New Wave, mais de la New Wave en cuisine, de la cuisine anglaise en France avec Laurent Mariotte. Marc-Antoine Lebray et ses stories seront là en fin d'émission. À tout de suite sur Europe 1.